Mon atelier était installé autrefois dans cette pièce, au-dessus de l'eau, sous la voûte de ce moulin. Dans un état de recueillement et de disponibilité, il m'est arrivé de percevoir, dans ce son assourdi, comme un entrelacs de voix. Cette hallucination était si précise qu'il me fallait me lever pour aller rouvrir la fenêtre. À qui pouvaient bien appartenir ces voix que je ne reconnaissais pas? Plusieurs voix, de tessitures et de timbres variés, me semblaient se mêler dans une conversation à la fois calme et animée, volubile et paisible. Mais le sens de ce dialogue restait toujours indistinct, comme perçu à travers une cloison ou un écran. J'écoutais d'une oreille distraite et depuis un certain temps cette rumeur de l'eau, et tout d'un coup je me trouvais en présence, depuis déjà un moment je m'en rendais compte, d'une conversation assourdie. Ce passage insensible d'un bruit de nature sans intention à une conversation dont le propos restait cependant obscur, était lui-même insaisissable. Et pourtant, dans cet aiguillage inconscient de mon cerveau, il n'y avait pas d'entre-deux. C'était tout l'un ou tout l'autre, c'est-à-dire tout bruit ou tout discours. Car dès lors que ce murmure liquide insensiblement s'imposait comme dialogue murmuré, celui-ci impliquait la présence d'une réalité première dont il serait l'expression seconde, une réalité qui serait le propos de cette conversation liquide. Et cette source non plus de l'eau mais de son récit, même si elle me restait obscure, ne pouvait exister à moitié. Je m'éveillais ainsi à moi-même avec une nouvelle croyance, celle en la réalité de ces voix. Et dès lors que j'y croyais, celle-ci entrait à faire partie du monde qui m'entourait aussi indiscutablement que le sol sous mes pieds ou le ciel au-dessus de ma tête. Voici donc que je me découvrais possédé par la conviction que l'eau parlait une langue qui semblait si proche de la mienne que j'aurais presque pu la comprendre. Où était-ce que je m'étais à mon insu et dans ma rêverie rapprochée de l'état liquide? Entendu depuis cette nouvelle position, c'était comme si le monde lui-même, par la voix de cette rivière coulant de son amont vers son aval, maintenant s'adressait. Mais à qui?
La rivière coule depuis sa source vers la mer. Tel est le sens de son courant. Maintenant, le mot sens lui-même changeait de sens.
La rivière coule depuis sa source vers la mer. Tel est le sens de son courant. Maintenant, le mot sens lui-même changeait de sens. Non plus une direction, mais un contenu. Un message qui, malgré tout, restait orienté dans le temps, car dans une phrase, l'ordre d'apparition des mots importe. Et le sens du message qui passe de l'un à l'autre dépend de cette succession. Même si je ne saisissais pas la signification de ce discours aquatique, je devais supposer qu'en tant que discours, il n'était pas réversible et possédait bien, lui aussi, un amont et un aval. Ce n'était plus d'une source invisible vers une mer lointaine, mais du début d'une histoire hypothétique vers sa fin non moins incertaine que s'écoulait maintenant ce murmure liquide. De ce nouveau sens du mot sens, j'étais cependant à la fois exclu, puisque ce discours m'était incompréhensible et infiniment proche, puisque ce bruit qui jusque-là ne me disait rien, je me trouvais maintenant introduit à son être mystérieux de langage, de paroles qui se recourbaient devant moi et peut-être pour moi sur une intériorité secrète. Et cette clôture à laquelle je n'étais pas convié, c'était déjà beaucoup de l'entendre, de la savoir telle. Il me semblait que ces voix discouraient entre elles, comme si l'eau se divisait pour mieux se parler à elle-même. À l'improviste et à mon insu, des présences, venant de moi peut-être, de ma distraction auditive, et pourtant se détachant de moi pour se retourner vers moi et donner corps à travers moi à quelque chose à quoi je n'accède pas, un monde habité, pressenti derrière ce rideau liquide et sonore. Il me semble que ce qu'elles décrivent et qui m'est insaisissable leur reste énigmatique à elles aussi, car il leur faut toujours y revenir, redire encore et encore de mille façons ce qu'elles ont à dire. Restait indéchiffrable à lui-même, comme si lui-même, dans l'intimité de sa volubilité, était impuissant à épuiser son objet, et comme moi comprend chose. Une histoire sans fin qui n'existe qu'à l'intérieur de cette tentative interminable de formuler une histoire sans fin qui n'existe qu'à l'intérieur de cette tentative interminable de formuler une histoire sans fin qui n'existe qu'à l'intérieur.
Cette arabesque infatigable m'apaise et me tient en alerte en même temps. Je m'y sens à la fois comme dans un nid et au bord d'une révélation à chaque instant promise. À chaque instant remise. Elle tourne et tourne autour d'un objet qu'elle emmaillote, telle une chrysalide, au cœur de cette matière frémissante qui la dissimule et la laisse présager.
De formuler une histoire sans fin qui n'existe qu'à l'intérieur.
Une histoire sans fin qui, lorsque j'en prends conscience, est déjà là en moi et moi immergé en elle. Rouler avec elle dans ce temps de l'éternel discours autour d'un propos obscur qui n'existe qu'à l'intérieur de cette tentative interminable de formuler une histoire sans fin qui, lorsque j'en prends conscience, est déjà là en moi et moi immergé en elle. Rouler avec elle dans ce temps
une histoire sans fin qui n'existe qu'à l'intérieur de cette tentative
à l'intérieur
de formuler une histoire sans fin de qui n'existe qu'à l'intérieur de cette
et lorsque j'en prends conscience c'est déjà là en moi et moi immergé en elle
n'existe qu'à l'intérieur
avec elle dans ce temps de l'éternel
de formuler une histoire sans fin
qui n'existe qu'à l'intérieur de cette
formuler une histoire sans fin
qui lorsque j'en prends conscience c'est déjà là
conscience est déjà là en moi et moi immergé
rouler avec elle dans ce temps de lutter avec
qu'est-ce que se retourne un propos obscur
qui n'existe qu'à l'intérieur
de cette existe qu'à l'intérieur
de cette formuler une histoire sans fin
et lorsque j'en prends conscience
est déjà là en moi et moi immergé
rouler avec elle dans ce temps de lutter avec
un discours qui retourne un propos obscur
qui n'existe qu'à l'intérieur
de cette existe
Il est bien connu qu'un son résonne mieux en un lieu qui est creusé et contient des cavités, comme dans le cas des instruments musicaux qui produisent des sons qui ne sont pas de la parole. Ainsi font les cavités de la terre, les grottes, les montagnes, les ruines, dont l'intérieur est cru. On note bien qu'elles peuvent aussi produire un son semblable à un homme. Par le moyen de ce secret, tu comprendras la signification des mots.
Moïse parlait à Dieu, et Dieu lui répondait de sa voix, c'est-à-dire avec une voix semblable à celle de Moïse.
Tu dois savoir que le corps humain est plein de trous et de cavités. Ainsi, tu pourras comprendre comment la présence de Dieu est vivante.
Produit de la parole.
Thank you.
clarté du monde, à l'angle autoristique du printemps et du sol, d'être au pays blanc. Comme était le dernier degré, j'étais très belle, maman avait encore un pansement, toute d'une blessure de l'air passé.
Tu atteindras alors l'inversion des signes qui signale l'apparition de la langue originelle, de la langue prophétique. Semblable à la voix des eaux d'un courant impétueux comme les ondes de l'océan quand souffle le vent du sud. Semblable à la voix de la mer en furie lorsque l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Et à travers la puissance de la pure imagination prend la forme d'un miroir poli avec lequel ce qui était derrière apparaît devant. Langages inventés, langue cryptique, verlan, javanais des enfants, argot, patois, sabir, langues à l'usage de deux êtres seulement, ou langage à usage exclusif, que personne d'autre que son créateur jamais ne comprendra. Est-ce ainsi que tu parles, oh, pour toi-même en toi-même? Mais que peux-tu bien avoir à te dire? À te dire de si précieux que tu doives l'entendre encore? Et vers où donc coule-t-elle ton histoire? Et pourquoi? Pourquoi depuis toujours coulant selon ton penchant vers la mer sans jamais t'épuiser? Et ces mots coulant de bouche à oreille se partagent et se communiquent. Et chaque oreille les entend différemment. Et chaque nouvelle bouche en dévie le cours. Mais si l'eau, en goutte de pluie, en fleuves lents et tortueux, en torrents impétueux, ruisselle et suinte et serpente vers la mer, toujours nouvelle et pourtant toujours la même, selon quel penchant ses pensées s'écoulent-elles, vers où ses pentes naturelles des idées, à quelle gravité, à quelle sublimation, à quelle condensation sont-elles soumises? Et si le cours des choses est ainsi fatal qu'il coule vers une mer invisible, chaque événement, chaque acte, chaque geste ne fait qu'un, avec toutes ses conséquences. Lorsqu'on fait ou dit quelque chose, une voix intérieure parfois nous met en garde. Sais-tu bien ce que...
que cela veut dire.
Au niveau du mécanisme que ça coince, c'est au niveau des glissières. Là, il faudrait que je lève complètement, que je laisse vider le biais pour pouvoir la voir. C'est quelque chose qui est coincé dans le glissière. Je suis dans l'eau, mais ça va prendre un peu de temps pour le vider. Donc là, on va remonter le mécanisme, on va la remonter au maximum.
Signifier. Prendre dans les plis et replis d'un sens qui s'écoule selon son invisible penchant. Lorsqu'un geste est obscur, on se demande alors de quoi est-il fait ? Par quoi est-il attiré ainsi ? Et quel chemin prendra-t-il pour y arriver ? Mais est-il un seul geste dont les conséquences ne soient inextricables ? Boire, manger, marcher, marcher pour aller où ? Marcher pour sortir, pour entrer ? Le monde s'écoule et nous nous écoulons avec lui. Voici que sa rumeur se fait enchevêtrement de voix. Cette polyphonie a-t-elle été ou sera-t-elle jamais pour quelqu'un, un jour, intelligible ?